ce colloque est totale. Donc, nous sommes évidemment très, très heureux, et Xavier Laurent a participé, comme avec Emmanuel et moi, à l'organisation de plein exercice de ce colloque. Donc, je te laisse la place avec tes invités. Alors, juste la contrainte, c'est de bien faire passer le micro chaque fois que quelqu'un parle. Venez.
Merci, merci infiniment. Donc, j'appelle les participants à la table ronde, Pierre Manin, Pascal Perrineau, Pierre Jourde, Pierre-André Taguieff, à nous rejoindre. Je remercie évidemment, pas tout particulièrement Emmanuel Hénin et Pierre-Henri Tavoyot, avec qui ça a été un plaisir de pouvoir travailler ensemble à ce projet qui a été d'une grande facilité à organiser dans un contexte absolument serein. Et de ça, nous ne pouvons que nous en réjouir, comme nous le voyons aujourd'hui, dans la façon dont les choses se déroulent. Alors, rives et dérives du déconstructionnisme, cela nous amène peut-être à parler de choses qui intéressent le traductologue. Hein, translatio, c'est amener d'une rive à l'autre. Alors, on peut se demander de quelle façon, finalement, cette notion de déconstruction voyage d'une rive à l'autre, d'un continent à l'autre, de la France aux États-Unis, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Pierre-Henri dans les cinq premiers âges de la déconstruction, comment cela nous revient. Et c'est finalement toujours intéressant de voir de quelle façon archéologie ou étymologie du signe, on participe à cette révélation permanente de ce qui se passe en réalité. Je crois que le syntagme « en réalité » est à ce point omniprésent dans les dénonciations de tout ce que nous entreprenons que finalement on en vient à se demander si ce n'est pas la réalité elle-même qui devient un objet de translation et un objet de dérive. Alors je remercie infiniment Pascal Perrineau d'être présent parmi nous. Il nous parlera de la dérive de la déconstruction dans les sciences politiques au point de la perte totale hein, de sens du signifiant. Et je le remercie infiniment d'être là. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris. Et peut-être pourrions-nous commencer de cette façon en se posant la question de savoir ce que c'est que cette question du sens des sciences politiques aujourd'hui et de quelle manière la révélation étymologique ou archéologique aux yeux de la déconstruction de ce que c'est que le signe politique aboutit finalement à un total contresens.
Merci beaucoup et merci de votre invitation à participer à cette réflexion collective qui est urgente, particulièrement lorsqu'on est dans le domaine des sciences politiques. Moi, je parle encore à la vieille manière, des sciences politiques. Comme vous avez pu le constater, en effet, les instituts d'études politiques qui sont nombreux sur le territoire, venez, confiez-moi cette affaire. Oui, comme vous avez pu le constater, donc les différents Sciences Po sur le territoire national et la science politique comme discipline universitaire sont très touchés, et ça n'est pas nouveau, par ce qu'on appelle le mouvement déconstructionniste, où il s'agit en effet de déconstruire toutes les catégories constitutives du réel, on le disait ce matin, et du réel de la démocratie représentative. Nous, ce qui nous intéresse au premier chef en tant que politologue. En effet, depuis de très nombreuses années, dans cette discipline, assez souvent, la démocratie représentative n'est considérée que comme un théâtre d'ombre, un véritable théâtre d'ombre où des logiques purement hétéronomes s'exprimeraient. Au fond, le lieu politique, le lieu de la représentation est considéré comme un véritable lieu vide qui ne trouverait son sens qu'à partir des projections de domination en tout genre, domination genrée, domination sociale d'ailleurs qui trouve de moins en moins sa place, ce qui est intéressant, on pourra y revenir, domination raciale, etc. Donc le lieu politique serait un lieu de projection de toutes ces dominations et la scène de la représentation politique n'accorderait aucune autonomie au fond au phénomène politique. Ce théâtre d'ombre serait un lieu où, et je vais vous donner quelques exemples, par exemple où le suffrage universel ne serait qu'un sens caché, sens CENS. C'est-à-dire le suffrage universel, en effet, ne serait, au fond, qu'une forme d'un suffrage censitaire, le sens n'étant plus en effet le sens du début du XIXe siècle, mais un sens qui trouverait son origine dans le système des inégalités culturelles et sociales. Vous avez un livre là-dessus qui est intéressant à lire, qui est un livre d'un politiste très proche de Pierre Bourdieu, Daniel Gaxi, qui s'appelle « Le sens caché ». Hein, le sens caché. Et le suffrage universel, en effet, ne serait qu'un sens caché structuré par des phénomènes de domination sociale et culturelle. Et 1848, l'élargissement du suffrage restreint au suffrage universel, 1944 aux femmes, 1974 aux jeunes de 18 à 21 ans, tout cela n'aurait aucun intérêt à peu près, puisque est à l'œuvre toujours de manière inéluctable ce sens caché. Deuxième regard, deuxième exemple, la représentation ne serait que le domaine, l'empire, de la trahison des intérêts du peuple, entre guillemets, une trahison de la démocratie réelle. Le concept de démocratie réelle réapparaît. Et il y aurait donc une démocratie réelle qui existerait en dehors d'une démocratie formelle qui serait, elle, entièrement captée par le phénomène oligarchique. Et à cet égard, vous avez un livre qui vient de sortir récemment d'un jeune politiste qui est dans mon laboratoire, d'ailleurs à Sciences Po, qui s'appelle Samuel Hayat, H-A-Y-A-T, qui s'appelle « Démocratie », qui est tout à fait symptomatique de ce type d'approche. Et la démocratie, au fond, réelle, elle ne s'exprimerait pas du tout, elle s'exprimerait absolument pas dans les institutions représentatives, elle s'exprimerait essentiellement dans les mouvements sociaux. C'est toute l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche mouvementiste, qui, elle, détiendrait la vérité, la vérité de l'expression démocratique. Troisième regard, et troisième exemple, l'égalité politique n'aurait aucun sens. La vérité de la citoyenneté est celle de ses inégalités sociales, culturelles, genrées, ethno-raciales. Et à cet égard, vous avez un livre intéressant d'une jeune chercheuse qui est là aussi dans mon laboratoire. Vous allez vous dire, quand je vais rentrer, ça va être très dur pour moi. Réjeanne Sénac, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'égalité sous condition », c'est-à-dire une égalité qui serait en deçà du sexe, de l'origine sociale, de l'origine ethno-raciale, de l'origine religieuse, de l'orientation sexuelle, etc. Quatrième élément, moi qui m'intéresse, qui me trouble davantage, c'est une approche où tout de même la question religieuse aurait une légitimité à faire retour à partir du moment où elle est portée par des dominés. À partir du moment où elle est portée par des dominés, tiens, tout d'un coup, il y aurait une légitimité au retour de cette question religieuse. Et l'hystérisation du débat à Sciences Po Paris ou à Sciences Po Grenoble, de manière vraiment très triste, autour des remises en cause de la notion d'islamophobie, qui est tout de même un vocable, quand on regarde sa généalogie, qui est un vocable militant, qui a reçu une onction scientifique, mais qui est à l'origine un vocable militant, est tout à fait symptomatique. Alors qu'en revanche, la notion d'islamo-gauchisme, elle est renvoyée dans l'enfer, des catégories vulgaires, des catégories non scientifiques. Et c'est tout à fait symptomatique du caractère extrêmement sélectif de la pensée déconstructionniste qui continue à entretenir certaines vaches sacrées, j'allais dire. Certaines vaches sacrées à l'écart de toute tentative d'analyse sérieuse. J'ai eu, et ça a été un moment triste pour moi, parce que j'ai une logique d'institution, et je pense que Sciences Po est une grande école, quand on regarde son histoire intellectuelle sur un siècle et demi. Mais j'ai eu un véritable effroi, ce qui montre que ça progresse, cette affaire, quand les autorités administratives et intellectuelles de Sciences Po ont fait un communiqué, disant, circulez, il n'y a rien à voir, l'islamo-gauchisme, on vous dit que ça n'existe pas. On avait l'impression d'être, si vous voulez, dans les pires moments de l'URSS, au moment où l'Académie des sciences disait, circulez, il n'y a rien à voir. C'était, mais ça m'a fait un effet Je suis allé tout de suite voir la responsable à l'époque de Sciences Po en disant « Mais vous êtes devenu complètement fou, quoi. Au moins discutons-en. » Hein ? Là, il y avait la traduction en anglais du texte, etc. Voilà, Sciences Po a décidé, les autorités, le président du conseil scientifique, ont décidé que. Au fond, ce mouvement de déconstruction, il consiste, pour le politologue que je suis, il consiste à nier toute autonomie du phénomène politique, à le ramener purement et simplement à ses substrats économiques, sociaux, culturels, à considérer d'ailleurs qu'il n'y a pas de science politique. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont le plus déconstructionnistes n'utilisent pas le terme de science politique, et encore moins au pluriel, ils trouvent ça absolument horrible. Ils utilisent le terme de sociologie politique. Quand on parle, comme il y aura une sociologie criminelle, etc., on ne parle pas de science politique. Et en cela, la pensée déconstructionniste, on en parlait tout à l'heure, a prolongé un combat que le marxisme structuraliste, puis la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire les phases 2 et les phases 3, pour reprendre les termes de Pierre-Henri tout à l'heure, ont engagé. Mais elle va aujourd'hui beaucoup plus loin, puisqu'elle ne se contente plus de dénoncer une domination sociale, mais une obscure oppression généralisée qui dépasse celle du pur dominant économique. C'est la domination du genre masculin, c'est la domination de la race blanche, c'est la domination de l'hétérosexuel, etc. Hein ? Donc des dominations au pluriel, dominations cachées, travesties, qu'il faudrait déconstruire avec d'autant plus de vigueur qu'elles n'ont pas le degré d'évidence de la domination économique. Le mouvement de déconstruction actuel se méfie comme de la peste, bien sûr, dans le domaine politique, de ce qu'on pourrait appeler les majorités silencieuses, au nom des minorités qui seules sauraient ce que parler veut dire. C'est très frappant dans les sujets de thèse. Je regarde régulièrement les sujets de thèse. Les sujets de thèse ne sont... On ne parle plus du tout des phénomènes majoritaires. Au fond, le vote n'intéresse plus personne. Hein. Il n'y a pas à peu près plus une thèse sur le sujet. Alors pour un électoraliste comme moi, c'est un peu... Bon, enfin, comme je suis émérite, ça va. Mais c'est un peu troublant. On ne parle plus que de micro-mobilisation. Hein, de micro-mobilisation sur les 100. Alors, les 100. Vous rajoutez SANS, puissant, voilà. C'est véritablement, là, vous avez une pléthore de thèses. Hein, mais c'est tout à fait symptomatique de cette espèce de soleil noir que sont devenues les minorités en tout genre, qui seules sauraient ce que parler veut dire. Minorités de militants qui s'instituent porte-parole des femmes, des racisés, des minorités sexuelles, mais qui n'entendent jamais rendre compte. Cette approche, comme la sociologie de Pierre Bourdieu ou le marxisme structuraliste que j'ai bien connu quand j'avais 20 ans, est allergique à toute logique individualiste et considère que les inégalités diverses invalident la logique démocratique des citoyens électeurs, oubliant que si les inégalités de fait, qui existent bien sûr, que si les inégalités de fait peuvent être réduites, et elles ont été réduites, les mesures de parité homme-femme, les législations antiracistes, la reconnaissance des droits des minorités sexuelles, elles oublient que si ces inégalités ont été objectivement réduites et doivent être encore réduites à l'avenir, la liberté politique et l'égalité juridique, elles sont ou elles ne sont pas. Elles sont ou elles ne sont pas. Il est donc essentiel de les assurer, et j'allais dire de les défendre en premier, ces libertés politiques et cette égalité juridique. Et l'immense, comment dire, avantage, entre guillemets, de cette déconstruction étendue, au sens où on peut parler dans le langage militant, vous savez, de l'extrême-gauche, d'extinction du domaine des luttes, l'immense avantage de la déconstruction étendue, c'est qu'elle multiplie les figures victimaires. Elle les multiplie. C'est un foisonnement de figures victimaires. Et au fond, on dépasse très nettement aujourd'hui la seule figure du prolétaire. qui d'ailleurs est remise en cause. Hein, tout à l'heure, on parlait avec Véronique Taquin de changement de peuple. Tous ces collègues que je vous citais, oui, oui, ils ont changé de peuple. Et ils appellent à un changement de peuple. Vous avez un texte qui est tout à fait révélateur à cet égard, qui est le texte, le rapport de 2011 de la Fondation Terra Nova, qui sous un titre sibyllin, quelle majorité électorale pour 2012, hein, et point d'interrogation, hein, est tout à fait intéressant. Parce que, au fond, que proposent les chercheurs qui ont pondu, beaucoup venaient de, là aussi de mon laboratoire, vous comprenez pourquoi je ne suis plus directeur. il proposait, au fond, si on résume, il disait, voilà, la gauche, puisque la Fondation Terra Nova parle avant tout de la majorité électorale pour la gauche a été pendant des décennies, ou tentait d'être pendant des décennies, l'expression politique et électorale des milieux populaires. Au fond, aujourd'hui, ces milieux populaires pensent mal, grosso modo. Ils pensent mal. C'est devenu d'horribles beaufs de réserve, donc vraiment, hein, il n'y a plus grand-chose à faire avec eux. Donc, laissons-les tomber et inventons un nouveau peuple. Ils le disent objectivement, ils n'utilisent pas l'utilisation de nouveau peuple, mais qui serait constitué d'une alliance des femmes, des jeunes et des Français issus de l'immigration. Voilà. On change de peuple. La gauche doit changer de peuple. Hein, et le projet est annoncé comme tel. Et taraude depuis, vous avez commencé avant, taraude la gauche française. Si la gauche française est dans cet état, c'est aussi parce qu'elle est traversée, travaillée par ces conceptions qui sont des conceptions, en effet, extrêmement divergentes, hein, de ce qu'on peut entendre par peuple et expression politique d'un peuple. Et à la figure donc, du prolétaire a succédé toute une série d'autres figures, la femme victime, l'émigré victime, le racisé victime, la minorité homosexuelle victime, etc. Et on peut parler, et je crois qu'il y a dans la stratégie de ce mouvement un avantage, on peut parler d'un véritable cumul des figures de la domination. Quand on parle d'ailleurs d'intersectionnalité, c'est un peu cela. Ce que l'on veut dire. Il y a un véritable cumul des figures de la domination et on élargit ainsi la culture victimaire, celle de la domination généralisée, et on élargit également les logiques, bien sûr, du ressentiment. Le ressentiment devient un ressort dominant des mobilisations. Le ressentiment devient cette passion triste qui peut saisir des millions et des millions d'individus qui se mettent à haïr l'air qu'ils respirent, à haïr l'Occident. Le ministre en parlait tout à l'heure dans son propos liminaire. Je vais conclure. Vous lirez le reste dans un texte. je vais conclure en disant que. Voilà, d'un point de vue purement politique, et si on croit que la politique, ça a un intérêt de s'y intéresser, il y a dans le combat culturel et politique qui est mené un véritable avantage aujourd'hui à cette accumulation du capital victimaire par les mouvements intellectuels et politiques qui développent cette diversification des figures victimaires. C'est dans la lutte politique et intellectuelle, je crois, pour eux, un véritable avantage.
Merci infiniment pour cette présentation. Qui est riche de ferments de discussion, hein, c'est très clair. Je crois que en vous écoutant, je repensais à des problématiques littéraires sur les crises de la ressemblance et de la représentation. Et on voit que finalement, aujourd'hui, cette question-là, cette mimésis, devient une question démocratique et une question politique. Pour embrayer peut-être sur et enrichir ce questionnement sur rive et dérive, c'est-à-dire voir cette mécanique de la révélation et de l'herméneutique permanente du sens caché, SENS ce coup-ci, je cède la parole, si vous le permettez, donc à Pierre Jourde. Pierre Jourde, donc, nous nous connaissons, vous êtes auteur, essayiste, professeur de littérature, critique littéraire, pamphlétaire, et il est temps peut-être de parler de sciences dures et d'ouvrir la discussion sur ces questions. Ensuite, je vous donnerai la parole, Pierre, et on terminera par Pierre-André.
Alors, est-ce qu'on m'entend cette fois ? Voilà. Oui, science dure, parce qu'on ne parle bien finalement que de ce qu'on connaît très mal. Et c'est mon cas en ce qui concerne les sciences dures. L'un des points essentiels de la déconstruction, c'est de remettre en cause l'idée qu'il puisse y avoir un savoir objectif, une vérité universelle. Et c'est la remise en cause, et ça vient de Nietzsche hein, directement, cet aspect-là de la déconstruction, le fait qu'un savant puisse prétendre se mouvoir exclusivement dans le ciel des idées sans prendre en compte ses déterminations. Cette remise en cause du fait qu'il y ait un savoir objectif, elle a été faite d'ailleurs très récemment par une personne qui enseigne dans ces lieux mêmes à Paris-Sorbonne. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui se répand dans l'université. Au fond, même les gens qui travaillent dans les sciences dures, les mathématiques, la physique, etc., ne feraient que exprimer leur subjectivité, leurs désirs, leurs préjugés, et surtout exprimer des rapports de domination. Et on en arrive finalement à cette idée que, puisque l'idée de science, en ce sens-là, c'est-à-dire prétendant à un savoir universel qui puisse être partagé par tous les hommes, a été élaborée, en effet, en Occident, elle est un produit de l'Occident, donc de la domination, donc ne doit pas prétendre à l'universel, mais se présenter simplement comme un produit culturel occidental. La réponse logique en est que, par conséquent, il y a d'autres formes de savoir qui peuvent légitimement concurrencer le savoir scientifique. Et cette idée se répand de plus en plus, notamment aux États-Unis. Je voudrais vous en donner quelques exemples intéressants. Alors, au Canada, existe un groupement de chercheurs, groupe de recherche, qui s'intitule, j'espère bien prononcer, Decolonizing Light, décoloniser la lumière. Je m'explique, il s'agit de repérer dans la physique le colonialisme. Repérer et contrer, c'est leur programme, le colonialisme en physique contemporaine. Programme de recherche, la physique est un champ dominé par les hommes blancs, sans doute, et donc, c'est là que l'induction est assez rapide, un miroir des schémas coloniaux et des inégalités sociales. La conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'il faut mettre en avant une physique ethnique. Tout le monde connaît la lumière. Toutes les cultures ont des connaissances sur la lumière. Toutefois, seules les connaissances de la physique sont considérées comme scientifiques. Seules les connaissances de la physique sont considérées comme scientifiques. Nous sommes intéressés, point E, point S, bien entendu, à explorer comment l'autorité des connaissances scientifiques coloniales s'est et est toujours reproduite dans le contexte de la lumière. Par conséquent, alors il y a cette idée qui est très déconstructionniste aussi. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce néologisme épistémicide. C'est-à-dire que l'Occident se livre sur les autres cultures à un épistémicide, c'est-à-dire à une destruction des savoirs traditionnels. Comme si, en réalité, ça n'était pas le contraire. Comme si ça n'était pas justement tout le travail du savoir occidental que d'exhumer et de répertorier ces savoirs traditionnels. Enfin bon. Donc, les modes de connaissance autochtones, je cite ce groupe de recherche, ont été supprimés et marginalisés tout au long de l'histoire des universités, mais ils commencent enfin à être reconnus comme étant tout aussi valides que les sciences occidentales. Et je tiens à souligner que ce type de discours, par exemple, est financé par l'État canadien. Ces recherches sont financées à hauteur de 163 000 dollars canadiens, c'est quand même pas rien. Hein. Pourquoi, au fond ? Pour dire que, par exemple, la représentation que se font du monde ou de la lumière les cultures indiennes de l'Amérique sont tout aussi près de la vérité que la physique. Alors, on voit bien à ce à quoi on aboutit avec ce genre de raisonnement, mais qui est tout à fait ordinaire et normal en Amérique du Nord, mais pas seulement, on va le voir, c'est qu'au fond, on pourrait très bien, au terme de ce raisonnement, considérer que, puisqu'un certain nombre de cultures considèrent qu'il y a un ciel des étoiles fixes ou que la Terre est plate, eh bien, c'est tout aussi valable que ce que nous a fait découvrir la physique. Pourquoi pas, à ce moment-là ? Je veux dire que s'il y a une signification de la science, c'est précisément de tenter de se détacher d'un certain nombre de productions culturelle pour élaborer un savoir qui puisse être partagé par tous. Mais cela n'est pas admissible. Je parle de soutien de l'État. Il faut dire aussi que un certain nombre de puissances privées aux États-Unis, et puissances privées qui ont fondé leur fortune précisément sur la science, ça le paradoxe, financent ce genre de recherche. La fondation Bill Gates, par exemple. Que serait Bill Gates s'il n'y avait pas une science un peu objective ? Je veux dire, que seraient les ordinateurs ? Comment tiendraient les ponts ? Comment voleraient les avions s'il n'y avait pas une science objective ? On se le demande. C'est-à-dire, si on s'en tenait à la vérité des cultures traditionnelles, on aurait un peu de mal. Eh bien, la fondation Bill Gates finance un programme intitulé « Un chemin vers un enseignement équitable des mathématiques, déconstruire le racisme dans l'enseignement des mathématiques ». Ce programme a essaimé partout aux États-Unis. Le département éducation de l'État de l'Oregon a décrété que les mathématiques étaient trop colonialistes. Ces enseignants devront être formés au caractère toxique de la culture suprémaciste blanche. Il y aura donc au programme des ethno-mathématiques. Car, alors, il faut dire que le concept de mathématiques objectives, je cite le département d'éducation de l'Oregon, le concept de mathématiques objectives est absolument faux, qui repose sur l'idée qu'il y a toujours de bonnes et de mauvaises réponses. Autrement dit, revenir à une conception un peu plus juste et décoloniale, c'est de dire que parfois c'est vrai et parfois c'est pas vrai. Mais rassurons-nous, en France aussi, nous y arrivons, puisque en 2015, l'université Lyon 2 organise un colloque où on remet en cause la rationalité occidentale et les épistémicides auxquels elle s'est livrée. Alors, ce qui est intéressant dans cette conception, c'est qu'elle a au moins deux précédents. Un précédent en ce qui concerne l'idée que c'est la justice qui doit déterminer ce qui est vrai. Le bien doit déterminer ce qui est vrai. Ça, c'est le moment Lysenko. On refait l'agronomie, on refait la biologie, parce qu'il doit y avoir une agronomie et une biologie prolétarienne, c'est-à-dire juste. C'est la même idée. De l'autre, l'idée qu'il n'y a pas de science objective, parce que la science doit être d'abord un produit, racial. C'est le moment Goebbels. C'est le moment Rosenberg. Puisque c'est exactement le discours que tenaient les nazis, très exactement, qui remettaient en cause la physique enjuivée, celle d'Einstein notamment, et réclamant une physique allemande, c'est-à-dire une physique plus intuitive, moins sensible à la rationalité. Pardon ? Oui, je me dépêche. Ce qui est très curieux là-dedans, c'est qu'on retombe finalement dans une espèce de déterminisme. on ne peut plus s'arracher à ses déterminations. Donc, c'est nier l'idée que l'esprit humain puisse se libérer de ses déterminations pour aller ailleurs. Il n'y a pas d'universalisme. Autrement dit, le fait, par exemple, d'élaborer un langage mathématique qui soit compréhensible par tous, et qui n'est pas seulement un produit occidental, même s'il s'est épanoui en Occident, ça a commencé par Babylone, ça s'est continué par les Grecs, etc. Ça n'est plus envisageable. Et puis finalement, cette idée que le bien doit déterminer le vrai, tout à coup, une boucle vient d'être faite. Le déconstructionnisme est un anti-platonisme. Mais l'idée que le bien doit déterminer le vrai, c'est une espèce de caricature du platonisme également. Donc il y a une espèce de serpent épistémologique qui se mord la queue. Et puis, ce qui me frappe aussi dans ce genre de discours, comme d'ailleurs dans la plupart des discours de ce type aujourd'hui, c'est toujours l'impression qu'ils ont une guerre de retard, qu'ils parlent d'une autre époque. Nietzsche basait son discours, et c'est en cela qu'il est un petit peu vieilli, sur une science positiviste extrêmement limitée, extrêmement, agressive depuis. Il y a eu quand même toute une histoire de l'épistémologie qui a remis en cause ce positivisme absurde. Il y a quand même eu des gens qui s'appellent Bachelard. Et surtout, le raisonnement me paraît un peu court, qui consiste à dire que si le savant exprime ses déterminations, alors tout le monde doit le faire. C'est confondre l'état de fait et l'état qui doit être visé. Ce que fait le savant, c'est tenter, précisément, dans la mesure du possible, et autant qu'il peut, de s'arracher avec une marge d'erreur à ses déterminations intellectuelles pour, précisément, viser à une vérité universelle. C'est ce mouvement-là qui est le juste. La science n'est pas une productrice de vérité éternelle et n'a jamais prétendu l'être. La science produit des vérités vérifiables dans l'état des connaissances, de l'expérience, à un moment donné. C'est cela qu'elle doit faire. Et, si vous voulez, ce subjectivisme, il a été d'ailleurs remis en cause par un certain nombre de... Ce subjectivisme et ce relativisme ont été remis en cause par un certain nombre de déconstructionnistes eux-mêmes. D'une certaine manière, Umberto Eco a été un déconstructionnisme de la sémantique. Lui qui a fait l'œuvre ouverte, en disant que l'œuvre était ouverte à toutes les interprétations. Mais ensuite, il a publié les limites de l'interprétation. Et on pourrait faire le même raisonnement pour la science, en montrant qu'elle est ouverte, mais elle est ouverte dans un certain angle. Et que cet angle ne peut pas s'élargir n'importe comment. Voilà, je vous remercie.
Merci infiniment, Pierre, pour cet exposé très, très stimulant. Évidemment, j'ai le rôle du méchant dans l'histoire, et vraiment, je te remercie d'avoir tenu dans le temps imparti tout en nous stimulant sur ces différentes questions. Et je crois que tu as raison de rappeler ces éléments. C'est que pour que la déconstruction ne soit pas qu'un nihilisme, il faut qu'elle se heurte à un moment à l'épreuve de sa propre déconstruction. Et c'est bien ce que nous tentons de faire, c'est-à-dire de repositiver quelque chose qui peut-être pourrait s'enfoncer si on ne faisait rien dans ce nihilisme-là. Pierre Manin, vous êtes professeur de philosophie politique à l'EHESS, vous êtes vous-même philosophe et auteur de nombreux ouvrages, on ne vous présente pas, et je vous laisse la parole immédiatement pour un exposé sur ces questions de rives et dérives du déconstructionnisme. Est-ce que le micro est en marche ? Est-ce que le micro marche ?
Je ne sais pas. Oui, il marche celui-ci ? Oui. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel Hénin et à Pierre-Henri Tavoyot pour leur invitation. Je voudrais faire quelques remarques sur la place, en quelque sorte, de ce qui nous occupe aujourd'hui dans l'histoire du mouvement démocratique. Les Tocqueviliens ne se refont pas, c'est leur unité de base. L'histoire du mouvement démocratique. Je vais essayer de tenir compte des limites de temps que vous nous avez imparties. Alors, notre dispositif politique repose sur la représentation. Démocratie représentative, république représentative, gouvernement représentatif, grande invention et chef-d'œuvre de la politique moderne. Grande invention, mais chef-d'œuvre en permanence en péril et qui laisse beaucoup à désirer. En effet, la représentation est une médiation. La médiation est frustrante et nous désirons toujours l'immédiat et la présence. Et donc, le dispositif représentatif est constamment hanté par la possibilité, l'espoir, la promesse d'une présence immédiate. Présence de soi à soi, présence de la société à elle-même ou du peuple à lui-même. Et donc, sous la République représentative, sous la communauté des citoyens qui votent et qui se gouvernent par la représentation, il y a toujours, ou presque toujours, je crois qu'on peut dire toujours, un peuple indéterminé. La potentialité et la promesse d'un peuple présent à soi sans la médiation de la représentation. Et historiquement, ce peuple a pris deux formes principales. Il n'y a pas de surprise sur ce point. La forme socialiste, en effet, la forme de vie produite par l'atelier, l'usine, l'association ouvrière, tout cela a défini la promesse d'un nouveau peuple, d'une nouvelle humanité qui se définirait immédiatement par le travail collectif. Et pour laquelle, pour cette humanité travailleuse, collectivement travailleuse, la représentation n'est qu'artifice aliénant. Donc forme socialiste du peuple, et puis, bien sûr, l'autre grande forme, la forme nationaliste. En effet, la représentation, cet artifice qui produit des communautés, des assemblées représentatives, donne le pouvoir aux parleurs de parole. Tandis que la nation comporte des institutions, des formes de vie qui sont antérieures à la représentation, qui sont ou paraissent humainement complètes, et qui n'ont pas besoin de la médiation représentative. On peut mentionner l'armée, on peut mentionner l'Église, ou en général les institutions religieuses, mais aussi telle classe, avec ses mœurs traditionnelles, qu'il s'agisse de la classe paysanne ou de la classe aristocratique, que sais-je. En tout cas, le pouvoir nationaliste s'appuie sur une partie au moins de ces formes de vie non représentables ou qui se passent de représentation. Le pouvoir nationaliste représente cette population, ce peuple, qui n'est pas représenté par la représentation politique. Forme socialiste, forme nationaliste. Alors, les totalitarismes nazis et communistes furent évidemment des expressions paroxystiques, respectivement du peuple nationaliste et du peuple socialiste. Alors bien sûr, le nazisme n'est pas simplement du nationalisme et le communisme n'est pas simplement le socialisme, mais enfin, ils en ont confisqué en quelque sorte la substance. Expression paroxystique et évidemment autodestructrice. Le nationalisme a été déshonoré par le nazisme. Le socialisme, comme promesse, n'a été que partiellement discrédité par le communisme, très partiellement, mais il a, pour ainsi dire, disparu en même temps que la classe ouvrière. Et donc, après 1945 et 1989-91, nous sommes privés de peuple, en quelque sorte, le gouvernement représentatif paraît définitivement victorieux, débarrassé du peuple, socialiste ou nationaliste, qui le hantait. C'est ce que nous avons cru, illusion, fatale illusion, le régime représentatif laisse toujours à désirer et ce désir suscite toujours l'attente d'un peuple. Alors, quel peuple maintenant? Je reprends la question posée par Véronique Taquin tout à l'heure. Quel peuple maintenant, après le peuple socialiste et le peuple nationaliste? On est tenté de répondre un peuple formé de tous les peuples du monde, un peuple formé des migrants de toutes origines, qui serait en somme à la fois une version du peuple socialiste et en même temps l'inversion du peuple nationaliste. Il est certain qu'une partie de l'extrême gauche nourrit ce rêve d'un peuple sans frontières, le rêve peut-être de notre collègue Balibar. C'est une fiction assurément. Ce peuple n'existe pas, il n'existera pas comme peuple. Il n'aurait aucun principe d'unité. Mais ce peuple sans frontières devient en quelque sorte plausible s'il se mêle ou se confond avec ce peuple infigurable, ce peuple sans peuple, en quelque sorte, ce peuple en voie de, à l'état de dissolution, qui est l'horizon du déconstructionnisme. En effet, la classe ouvrière et la nation étant rayées de notre avenir, il n'y a plus de commun, il n'y a plus de commun véritable qui puisse être l'objet de notre visée. Et comme il faut bien viser quelque chose, il faut bien trouver en nous ce peuple potentiel, promesse d'une présence immédiate à soi. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons de nouveau en 1789. Alors, je ne veux pas me brouiller avec la République, mais enfin, en 1789, nous avons rencontré, en grandes lettres, le problème dans lequel nous sommes toujours. Il s'agissait, et il s'agit, de produire à partir de nous, de l'agrégat inconstitué de peuples désunis, comme disait Mirabeau en 89, de produire à partir de cette association empirique un nouveau peuple. Et pour cela, commencer par produire ou dégager les éléments de base qui entreront dans le nouveau peuple que nous visons à former. Alors, ces éléments, quels sont-ils ? Nous les connaissons bien. Ils nous accompagnent depuis le début de l'aventure démocratique. Ce sont les individus titulaires de droits, ou plus précisément, plus concrètement, ces volontés qui ne veulent pas se lier, qui refusent non seulement l'aliénation représentative, bien sûr, mais toutes les liaisons sociales qui abritent toujours une domination. Et en ce sens, nous voulons revenir à la condition qui était la nôtre avant que nous ayons commencé à agir les uns sur les autres. Et ici, j'ai le regret de dire qu'il faut prendre Marx au sérieux. Le Marx, critique des droits de l'homme, sur ce point, je reprends en son absence, que je regrette chaque jour, ma discorde ou ma dispute... ma discussion avec Claude Lefort, il faut prendre Marx au sérieux. Il a raison sur ce point, ou le jeune Marx avait raison sur ce point, les droits de l'homme, ce sont ultimement les droits de l'homme séparés de l'homme. L'homme séparé de l'homme. Et nous voyons plus clairement aujourd'hui, je dirais grâce aux déconstructeurs, ou avec l'aide des déconstructeurs, ce que cela veut dire. Nous voulons bien nous lier, bien sûr, mais à condition que nous restions aussi déliés que si nous ne nous étions pas liés. Avec l'espoir plus ou moins fermement entretenu qu'au terme de ce grand travail de déliaison générale, un nouveau peuple, un peuple sans peuple, mais néanmoins un peuple délié, mais néanmoins d'une certaine façon cohérent, surgira. Mais en attendant cet avènement, défaisons tous les liens, puisque tous les liens aliènent. Alors consentons, mais sans consentir. Car une fois qu'on a consenti, on ne peut plus consentir. Bref, soyons des volontés séparées, et chacune seulement à soi, ou chacune seulement présente à elle-même. Donc, d'une certaine façon, pure potentialité, jamais concrétisée, jamais actualisée, jamais exercée. Et donc, clairement, un grand évidement de la vie commune est à l'œuvre. Un évidement méthodique et qui n'a, je le crains, aucun principe intérieur de limitation ou de modération. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter ce mouvement d'évidement de la vie commune? Peut-être, je l'espère, le sentiment soudain, qui finira bien par apparaître chez nos contradicteurs, ou chez ceux dont nous parlons aujourd'hui, le sentiment soudain de l'extraordinaire stérilité de leur entreprise. Néanmoins, je ne m'y fierai pas, parce que, et ça fait peut-être la transition avec l'intervention qui va suivre, un expert en nihilisme nous a déjà averti, les hommes préféreront toujours vouloir leur rien à ne rien vouloir. Je vous remercie.
Merci, merci infiniment, Pierre, pour cet exposé qui voilà, reprend les termes de cette notion de rive et dérive du déconstructionnisme. Je crois qu'on est là au cœur du débat, cette invention d'une utopie politique qui joue sur la révélation permanente d'une herméneutique qui prétend révéler à soi-même le véritable sens de son être et de son identité. Une espèce de clivage narcissique au niveau des peuples, en fait. Tu n'es pas ce que tu crois être, tu es autre chose, et progressivement construit cette fable-là. Nous allons écouter maintenant l'intervention, si la technique le permet, de Pierre-André Taguieff, qui est historien des idées politiques, philosophe, essayiste, qui a depuis très longtemps posé les bases de nombre des descriptions des objets conceptuels dont nous parlons maintenant. Alors, il regrette infiniment de ne pas pouvoir être parmi nous, mais pour des raisons de santé, il est difficile pour lui de se déplacer. Et il nous a donc fait parvenir une communication enregistrée dont le format est minuté, chronométré, ce qui ne m'empêchera pas d'intervenir pour l'interrompre s'il le faut.
L'intervention portera sur la déconstruction comme machine de guerre contre. Mon intervention portera sur la déconstruction comme machine de guerre contre la civilisation occidentale. L'idée de déconstruction, devenue rapidement vision idéologique et programme de travail sur les textes, s'est formée à partir des lectures françaises de Nietzsche et surtout de Heidegger au cours des années 60 et 70. Le mot « déconstruction » a été forgé par Gérard Granel au milieu des années 60 pour traduire le terme polysémique employé par Heidegger à Bao dans son essai paru en 56, « Contribution à la question de l'être ». Le mot à Bao avait été auparavant employé par Heidegger, notamment dans son cours de 1927, « Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie », pour désigner la déconstruction critique des concepts reçus qui sont d'abord nécessairement en usage afin de remonter aux sources où ils ont été puisés. À la suite d'une rencontre avec Heidegger à propos de la traduction de ses textes, Gérard Granel a proposé le mot « déconstruction » pour éviter « destruction » qui, même avec un tiret, « déconstruction », renverrait à Zerterung plutôt qu'à Abao. Avant d'être publiée, la traduction par Granel du texte de Heidegger avait circulé dans les milieux heideggeriens et sa traduction d'Abao par le mot « déconstruction » avait retenu l'attention. Il a été aussitôt repris par Derrida, qui en a fait par la suite un drapeau. Au début de la grammatologie, ouvrage de Derrida publié en décembre 1967, où le philosophe s'engage dans la déconstruction de ce qu'il appelle l'ontologie, l'ontothéologie métaphysique censée être propre à l'Occident, Derrida définit son geste comme la destruction, non pas la démolition, mais la désédimentation, la déconstruction de toutes les significations qui ont leur source dans celle du logos. En particulier, ajoute-t-il, la signification de vérité. Fin de citation. Ce qui est visé, c'est ce qu'il appelle le logocentrisme, cette ontologie qui, dans son cours le plus intérieur, précise-t-il, a déterminé le sens de l'être comme présence et le sens du langage comme continuité pleine de la parole. Fin de citation. L'objectif déclaré de l'ouvrage est de travailler à l'ébranlement de cette ontologie ou de cette métaphysique de la présence. La déconstruction semble toujours échapper aux définitions qu'on en donne. Dans « Force de loi », publié en 1994, Derrida évoque les recherches de style déconstructif ou un questionnement déconstructif ou encore un questionnement philosophico-déconstructif. Lecture, recherche, pratique, questionnement, la déconstruction et tout cela en même temps. Derrida ne recule pas devant la coquetterie provocatrice lorsqu'il écrit en 1985 dans sa lettre à un ami japonais « Ce que la déconstruction n'est pas, mais tout. Qu'est-ce que la déconstruction ? Mais rien !» Disons plus simplement qu'elle est indéfinissable. Ces interrogations, ces autocorrections indéfinies et ces tours de passe-passe n'ont nullement empêché la sloganisation de ce mot à la fois obscur, sonore et scintillant, outil privilégié d'un nouveau pédantisme à la portée de tous. La déconstruction est ainsi devenue une clé universelle, en même temps qu'un tribunal devant lequel sont convoqués tous les grands penseurs de l'histoire européenne, mais aussi toutes les composantes de la civilisation occidentale. Dans le paysage déconstructionniste contemporain, on observe un certain nombre d'orientations politico-intellectuelles associées à des groupes formés autour de maîtres à penser et à parler, grands et petits. Simplifions le tableau en distinguant, d'une part, la déconstruction du discours philosophique et politique occidental, qui suppose des analyses critiques sophistiquées conduites par des universitaires restant ou non dans leur domaine de compétences respectifs, et d'autre part, les politiques de la déconstruction menées par des intellectuels engagés qui, puisant leurs thèmes et leurs arguments dans diverses disciplines, prétendent accomplir une critique radicale des sociétés occidentales dans tous leurs aspects, en vue d'une transformation globale qui prendrait la relève des utopies révolutionnaires modernes. Seule la civilisation occidentale fait l'objet des activités déconstructrices, qu'elle s'attaque à des formes discursives jugées trompeuses ou à des ordres sociopolitiques jugés injustes. Incarnation supposée de la volonté de puissance et de domination, matrice désignée de l'exploitation capitaliste et de l'impérialisme colonial, le monde occidental est traité par les déconstructeurs comme l'ennemi absolu. La déconstruction est l'arme intellectuelle censée permettre de dévoiler l'insoutenable face cachée de l'Occident, à savoir son racisme et son sexisme, considérés comme des héritages culturels à dénoncer en attendant de les abolir. La conclusion logique du déconstructionnisme est qu'il faut en finir avec la civilisation occidentale. La mode déconstructionniste, à la fois intellectuelle et langagière, présente quatre traits distinctifs. Sa longue durée, sa force d'intimidation, sa vitesse de propagation internationale et sa traduction en une vulgate dont les variantes se rencontrent dans des domaines extrêmement divers, de l'art contemporain à la pédagogie, de l'antiracisme et du néo-féminisme au discours publicitaire et à la propagande politique. Le mot d'ordre des déconstructeurs est simple, tout peut et doit être déconstruit. Mais il est trompeur, car seule la culture occidentale fait l'objet d'une déconstruction systématique. Il n'est pas question, par exemple, de déconstruire le ressenti victimaire des catégories sociales dites minoritaires, dominées ou racisées. Criminalisé et diabolisé dans toutes ses composantes, le monde occidental est voué à être démoli, mis en pièces pour être remplacé par un monde meilleur qui n'est guère défini que par la négation de tout ce que l'Occident est aux yeux de ses ennemis. L'intimidation heideggero-derridienne a eu pour résultat d'imposer un lexique et une rhétorique qui, en bloquant la pensée libre créatrice, n'a fourni que des signes d'appartenance à quelque chose comme une secte intellectuelle internationale et partant des signes de reconnaissance entre membres de la dite secte politiquement situés à l'extrême gauche, qu'ils se disent marxistes ou non. La pensée critique et démystificatrice issue des Lumières s'est transformée en pratique déconstructrice dont le premier geste est de s'attaquer précisément au logocentrisme et au phallogocentrisme, les exigences de rationalité et d'universalité étant réduites à l'expression d'une volonté de domination sans pareil, elle-même rapportée à l'abominable système hétéro-patriarcal dont nous sommes censés voir les méfaits tous les jours. L'extension sans fin des objets à déconstruire constitue l'un des traits de la pratique déconstructionniste. Dans Force de loi, Derrida ajoute la question animale et part en guerre contre le carno-phallogocentrisme, donnant ainsi une caution philosophique à l'antispécisme, extension de l'antiracisme, et à l'animalisme, conclusion logique de l'anti-humanisme théorique. Il s'agit selon lui de, je cite, « déconstruire les partitions qui instituent le sujet humain, de préférence et paradigmatiquement le mâle adulte, plutôt que la femme, l'enfant ou l'animal, en mesure du juste et de l'injuste ». Fin de citation. La déconstruction doit se poursuivre dans l'espace tout entier du monde vivant. Les déconstructeurs militants n'ont pas manqué de s'attaquer aux au leucocentrisme, du grec leucos, blanc, en dénonçant le privilège blanc et en appelant à déconstruire l'innocence blanche. La leucophobie s'est installée dans le discours politiquement correct sous couvert d'antiracisme. Une croisade idéologique a été lancée par les féministes noires états-uniennes contre le savoir eurocentrique et androcentrique, je cite, et plus largement contre l'androcentrisme blanc, qui désigne la procédure de validation du savoir contrôlé par les hommes blancs et dont le but est de représenter le point de vue blanc et masculin. Fin de citation. Tel qu'il est dénoncé, le X-centrisme vise toujours et seulement l'homme occidental, le mâle blanc, intrinsèquement phallocentrique, ainsi que son logocentrisme, son rationalisme, son humanisme et son universalisme suspect, censé dissimuler son impérialisme, son nationalisme, son sexisme et son racisme. Les nouveaux précieux et les nouveaux pédants à visage radical se sont donc installés sur les terres de la déconstruction en même temps que sur celles de la révolution. Le mouvement woke est issu de ce moment déconstructionniste politisé qui dure depuis plus d'un demi-siècle et a conduit dans l'enseignement supérieur à multiplier les studies, black studies, queer studies, gender studies, etc., lesquelles permettent aux activistes de prendre d'assaut les universités et d'occuper le terrain médiatique et académique, bien sûr. Dans l'usage courant, le mot déconstruction signifie simplement analyse critique à visée démystificatrice, comme dans les appels à déconstruire les stéréotypes, les préjugés de race, de sexe, de genre, etc., pour lutter contre les discriminations. Dans le discours pédagogique ordinaire, l'esprit critique est censé s'exercer désormais par la déconstruction, mot magique. Il en va de même dans le discours politique des gauches ralliées au décolonialisme et à l'écoféminisme. Dans ces emplois du mot déconstruction, l'esprit critique se retourne contre lui-même. Les origines heideggero-derridiennes du terme ont été oubliées et la plupart des nouveaux locuteurs les ignorent. En sortant de l'espace universitaire, le mot déconstruction a donc changé de sens. En déconstruisant tout ce qu'ils perçoivent comme politiquement ou moralement incorrect, les nouveaux déconstructeurs militants sont convaincus d'être progressistes. Mais le mot progressisme a lui-même changé de sens, privé de ses fondements rationalistes et de ses horizons universalistes, il désigne simplement la posture idéologique qui prétend incarner le bien, à savoir l'engagement à gauche ou à l'extrême gauche, défini par son objectif claironné, le combat pour l'égalité. On peut y voir la dernière version en date de la grande illusion communiste. L'imposture criminelle qu'est le communisme tenait sa séduction de ce qu'elle avançait sous le drapeau du progressisme et promettait de réaliser universellement l'égalité des conditions après la destruction de la société capitaliste. L'utopie égalitaire s'est redéfinie à travers le wokisme, nouvelle figure de l'égalitarisme radical mariée à l'étrange haine de soi cultivée par nombre d'intellectuels occidentaux. Il ne s'agit plus seulement d'en finir avec le capitalisme, il faut détruire la civilisation occidentale en commençant par criminaliser son passé tout entier et rejeter en conséquence tous ses héritages. La destruction de la langue par l'écriture inclusive fait partie de ce programme de décivilisation vertuiste. Il y a là un appel à un ethnocide de grande ampleur. Du pédantisme déconstructionniste plus ou moins ludique est donc né ce monstre qu'est le wokisme, conformisme conquérant qui semble marquer l'émergence d'un nouvel esprit totalitaire.
Donc voilà, il nous reste peut-être un petit moment pour pouvoir éventuellement échanger. Simplement, pour susciter peut-être la discussion avec nos intervenants, si Pierre-Henri, tu m'y autorises, on pourrait quand même se poser la question de savoir pourquoi n'enseigne-t-on pas la magie à l'université et à l'école ? Pourquoi n'enseigne-t-on pas la magie à l'école comme une épistémologie ? On reconnaît à la magie le fait qu'elle est une techné, une pratique qui s'observe, mais on ne l'enseigne pas, les fondements de l'épistémologie de la magie à l'école. Pourquoi ? Parce que dans la cartographie des savoirs enseignés à l'université, telle que nous représentons les sciences et les savoirs, la magie, en tant qu'épistémologie, ne figure pas. Si demain une chaire de magie
accède à l'université et propose un enseignement épistémologique de la magie, alors, après-demain, nous enseignerons la magie à l'école et, dans deux générations, nous aurons un peuple renouvelé qui sera un excellent peuple de magiciens, ce qu'on peut peut-être se proposer comme objectif. Je dis ça parce que, dans ce qui nous a été proposé, on voit se poser finalement la question de ce que nous appelons un savoir et de ce que nous confions, au sens où nous avons confiance au cadre politique pour nous proposer un espace dans lequel progresser, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre-André Taguieff, qui part de l'idée de fondement, comme l'objectivité des sciences par exemple, la reproductibilité des savoirs, et qui aboutit à ce que ce consensus minimum fasse peuple. Alors je vous pose cette question, rive et dérive, où en est-on ?
Très rapidement rebondir sur ce que tu viens de dire. Très curieusement, tout en récusant l'idée d'un savoir objectif et d'une science universelle, ce qui me frappe dans les textes que j'ai abondamment pratiqués, grâce notamment ou à cause de l'Observatoire du décolonialisme, qui le recense avec une patience bénédictine, dans toutes les thèses, les articles, etc., qui parlent de l'hétéronormativité, du décolonialisme dans le savoir, etc. Ce qui frappe beaucoup quand on lit ces textes, c'est le désir de se faire reconnaître comme scientifique, précisément. Et comment se faire reconnaître comme scientifique ? C'est ça qui me frappe, et c'était un peu le fond du discours d'une intervention de Sandra Laugier dans Le Nouvel Observateur. Comment peut-on remettre en cause des concepts tels que intersectionnalité, décolonialisme, etc., puisqu'il y a beaucoup d'études dessus. Autrement dit, le fondement scientifique, quand on a rejeté l'universalisme scientifique et le rationalisme, qu'est-ce que désormais le fondement scientifique du savoir ? C'est la quantité. C'est la quantité. Autrement dit, là encore, on a bien vu tout à l'heure le danger de retour à un obscurantisme, là on en revient en quelque sorte à une conception du savoir qui date du XVIe siècle. Ça n'est pas, c'est l'opinion qui fonde le savoir. C'est ça l'idée du XVIe siècle. C'est la quantité de gens qui écrivent sur un sujet qui le fonde. Étrange conception de la science.
Mais oui, on est là au cœur finalement du problème et du projet dont nous souhaitons nous doter aujourd'hui. Écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, si vous ne souhaitez pas répondre, nous pouvons mettre fin à cette table ronde. J'espère que les discours ont pu apporter quelques éléments de réflexion et montrer ce que nous entendions par la reconstruction. Merci. Merci à chacun d'entre vous.
Je profite de ce petit moment de pause pour vous inviter tous à vous connecter à décolonialisme.fr afin de constater que la patience bénédictine de ces observateurs est à l'œuvre.
Cinq minutes de pause. Ça veut dire quatre.